entre vous et nous.
L'émission pour bien vivre au quotidien.
Entre vous et nous, votre nouvelle émission sur Radio Chablais tous les vendredis à 11h. Une émission qui vous permet de découvrir tous les conseils de nos experts sur Radio Chablais. On enchaîne maintenant avec un sujet qui travaille beaucoup, beaucoup de gens depuis une dizaine de jours en Valais et puis depuis le début de la semaine dans le canton de Vaud. C'est la rentrée scolaire. Et justement, Jean-Jacques Martin de l'école Némésis, vous allez un peu nous expliquer comment on peut aider son enfant dans le cadre de cette rentrée scolaire, parce que c'est vrai que c'est honnêtement stressant pour les enfants, mais j'ai l'impression que c'est tout aussi stressant pour les parents que nous sommes.
Alors oui, pour plusieurs raisons, c'est que déjà on a une donnée historique à prendre en compte, hein, c'est le Covid-19. Ouais. On est dans une rentrée un petit peu spéciale, donc déjà c'est un élément assez stressant, la reprise de l'école, hein, parce que c'est la rupture d'un rythme, et puis c'est le début d'un autre rythme, c'est la rupture du rythme des vacances, en général c'est le dolce far niente, et cet été, je pense que c'était un petit peu compliqué pour beaucoup d'entre nous, et cette interruption aujourd'hui, il faut qu'on commence un nouveau cycle avec des gestes barrières, avec des parents qui ne peuvent pas traverser la rue pour amener leurs enfants, et donc une école qui se rend encore plus lointaine en fait par rapport aux familles. On avait déjà un petit fossé parfois, hein, on va amener son enfant à l'école, on le laisse, on a déjà ce petit serrement au cœur, on doit l'abandonner devant la porte de l'école, et là aujourd'hui certains parents n'ont même plus le droit d'aller amener leurs enfants à l'école, et donc ça peut poser certains problèmes de stress, notamment pour l'enfant. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on a interrompu ce cycle de l'école au mois de mars, durant l'année, et que pendant un certain nombre de mois, les enfants n'ont pas eu un rythme scolaire normal, que les parents ont essayé de dépanner, que l'école a dû s'organiser. Enfin voilà, tout ça est à prendre en compte dans ce début d'année scolaire. Et c'est là-dessus que j'aimerais insister aujourd'hui. Il y a certainement des conséquences à tout ça, hein, sur un cerveau d'un enfant ou même d'un adulte. Et je crois qu'il faut surtout garder la tête très froide, qu'il n'y a pas de panique à avoir, parce que je vais vous parler aujourd'hui de ce qu'on appelle la plasticité du cerveau. Et chez les enfants, le cerveau est extrêmement plastique. Donc il peut très rapidement absorber un certain nombre de chocs émotionnels, entre guillemets, ou de ruptures de rythme, et puis de repartir très vite pour performer. Donc je pense qu'aujourd'hui, j'ai plus envie de dire que c'est une opportunité de repenser l'école aussi un peu à la maison, de repenser les séquences pédagogiques, en tout cas pendant un certain temps, à l'école, et puis d'être très attentif. Je pense que c'est ça aujourd'hui que je conseille aux parents, c'est d'être très attentif par rapport à certaines manifestations que leur enfant pourrait justement montrer.
Oui, ouais, parce qu'on a l'impression souvent que les parents stressent presque plus que les enfants. Les enfants, vous le disiez, s'adaptent beaucoup plus facilement, ont une capacité d'adaptation peut-être plus facile, et ce serait à nous de mieux les écouter.
Oui, je vous rassure, vous avez toujours la même plasticité, vous êtes un peu plus lent, c'est dû à la synthèse de vos
beaucoup
protéines
plus.
Qui vieillissent, hein, c'est normal, votre code ADN est un petit peu altéré au fur et à mesure des années.
Vachement moins jeune.
Mais enfin, vous avez tout à fait cette capacité, jusqu'à pratiquement quelques minutes avant votre mort, vous pouvez toujours apprendre, vous êtes toujours très plastique. Donc à quelque part, c'est rassurant pour nous, adultes aussi, donc on va rester très positif même pour nous. Ce qui est important, en effet, hein, peut-être je vais vous parler d'un mécanisme, de ce fameux possible cercle vicieux sur lequel il faut qu'on soit attentif au début de l'année scolaire. Nous, on apprend depuis des millénaires par rapport à notre évolution sur deux canaux distinctifs. Le premier, c'est le plaisir. Donc, aller à l'école sans plaisir, vous avez peut-être vécu ça, mais enfin, c'est quand même difficile. Et ça ne va pas favoriser l'apprentissage chez un enfant. Et puis, le deuxième, c'est le rythme de travail, c'est la régularité. Et on a découvert, il y a bien longtemps maintenant, ce qu'on appelle le circuit de Pape, c'est-à-dire le système, le circuit d'une récompense, hein, du plaisir qu'on peut avoir à faire quelque chose. Bon, je ne vais pas vous parler de neurotransmetteurs, de dopamine, etc. Mais enfin, bref, on est sur des transferts de type hormonaux, donc une communication chimique dans le cerveau. Et ce qui est important dans ce circuit, c'est que si vous voulez avoir une action qui est accomplie avec un effort, il faut que derrière vous ayez une récompense. Alors à l'époque, chez moi, c'était vous savez, les petits stickers qu'on mettait sur la fiche, ou bien le petit mouton, le canard. Moi, j'ai plein de canards, parce que je parlais tout le temps. Mais enfin bref, quand j'avais un mouton, je rentrais à la maison, mes parents me donnaient une petite pièce de monnaie, j'étais content, c'était voilà, un système de récompense. Alors aujourd'hui, ça marche plus beaucoup avec les jeunes, hein, ils sont en général pas du tout stimulés de la même manière. Mais enfin, la récompense est importante, et donc le plaisir.
Ah, donc il faut garder quand même un système d'échange de récompense pour pouvoir un petit peu...
C'est fondamental à l'école et à la maison.
Alors, juste question comme ça, Marc Woltenhauer, vous étiez un bon élève, vous ? La rentrée scolaire, ça se passait comment ?
Ou alors ça remonte à assez loin.
Non, je suis la pastille. J'étais plutôt, moi,
j'étais plutôt, je crois, un bon élève. J'arrive pas à me souvenir si enfant je me réjouissais vraiment de la rentrée ou pas. Mais j'ai pas détesté l'école. Je crois qu'au contraire, j'ai du plaisir
à y aller parce qu'il y avait les copains, il y avait tout.
Oui, je pense. Ouais.
Alors, vous nous disiez justement, Jean-Jacques Martin, on rappelle l'école des Mésis, que il doit y avoir une forme de récompense. Alors, quand on
Oui, notre cerveau est composé de trois parties. Hein, donc, il y a une partie centrale qui est contrôlée par le système limbique. C'est ce fameux circuit dont je vous parlais, hein, de récompense. Hein, il est central. C'est un filtre à quelque part. Si l'émotion que je reçois elle est positive, alors évidemment, j'ai envie de la reproduire. Si elle est négative, alors on a une autre partie de notre cerveau qu'on appelle le cerveau reptilien, c'est-à-dire la protection, le côté instinctif de dire c'est dangereux pour moi, donc je vais me fermer. Donc, à un moment donné, vous voyez à quel point pour un enfant c'est fondamental. Mental qui se sent à l'aise. Donc vous voyez, à quelque part, aujourd'hui, notre difficulté, c'est qu'on rentre dans un milieu anxiogène, geste barrière, l'école, on recommence, on quitte un rythme, on ajoute ça. Donc ces petites choses-là peuvent avoir une grande importance pour un enfant à ce moment-là. Ça peut perturber cette zone, dit système limbique.
Puis est-ce qu'on ne peut pas mettre en place aussi certaines choses? Moi, je me souviens, par exemple, qu'à partir de mes 13-14 ans, le jour de la rentrée scolaire fin août, qui était vraiment le moment stressant parce qu'on ne sait pas nécessairement qui on aura dans sa classe et ainsi de suite, et il y a des coups de stress, moi j'allais dormir chez des potes et on passait le dimanche soir ensemble et tout. Puis passé les 16 ans, quand on avait le droit d'aller un petit peu plus loin, on allait carrément camper à côté du collège avant de recommencer le collège, pour vous le gymnase ici, et on restait sur place et on attaquait le lendemain. Alors ça nous permettait, entre guillemets, de fêter un peu la transition et de la vivre ensemble. Est-ce que c'est des méthodes qu'on peut utiliser ou mieux?
Ah, plus que volontiers. C'est surtout vraiment l'important, c'est dans les familles, c'est de dédramatiser la situation. Et les parents, vous savez, les enfants sont des éponges à émotions. Hein. Donc si les parents sont stressés eux-mêmes, l'enfant va dire qu'est-ce qui se passe, il m'amène où, pourquoi, etc. Donc il y a vraiment un moment important chez l'adulte, c'est d'amener son enfant avec. Il y a un côté ludique, on peut se fixer des petits objectifs. Comme vous dites, camper à la maison, peut-être même simuler la rentrée. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas voir les choses? Tu vas rencontrer, ah super, tu vas voir celui-ci, tu l'aimais bien, tu te rappelles plein de choses. Donc il faut projeter l'enfant dans une sphère avec une dimension émotionnelle positive, parce que justement ça va lui permettre, au niveau dont je vous parlais, de ce système limbique, de commencer durant son année scolaire avec en tout cas le plus de chances possible d'avoir du plaisir.
Marc Voltenavoir, ça vous faisait réagir, puis après Blaise aussi, je crois que vous avez un truc à dire.
Moi je me posais un peu la question sur comment est-ce qu'à l'école vous allez gérer finalement un changement du mode de relation en lien avec les contraintes liées au Covid. Parce que je vois par exemple dans les rencontres avec des personnes adultes, j'ai un exemple, j'étais mangé chez des personnes où il y avait des personnes que je ne connaissais pas, et en fait on est un peu emprunté de savoir comment est-ce qu'on doit se comporter. Est-ce que on se dit bonjour de loin? Est-ce que on se serre la main? Est-ce que quelqu'un qui veut vous faire la bise, on accepte ou pas? Je trouve que c'est jamais évident de savoir comment réagir, parce qu'on ne sait pas toujours comment la personne qu'on a en face de soi se situe par rapport au Covid aujourd'hui. Et puis du coup, je peux aussi m'imaginer, par exemple, que les enfants, ils ont des exemples à la maison qui vont être très différents. Peut-être qu'il y a certaines familles qui sont très craintifs et qui sont même à la maison très très attentifs sur les mesures barrières. Et puis dans d'autres familles, finalement, où on n'en a rien à faire et puis on vit presque comme avant sans se poser de questions.
Alors, c'est une remarque qui est très pertinente, et en même temps, ma réponse, j'en ai pas vraiment, si ce n'est un mot que je garde toujours en tête quand j'enseigne ou quand je travaille avec des jeunes ou moins jeunes, peu importe, c'est l'humour. J'ai toujours en image La Vita est belle, donc le film, avec une situation dramatique qui est vécue de manière décalée et qui finalement permet de traverser des situations parfois très compliquées. Et là, je pense que par rapport au système limbique dont je vous parlais avant, je pense que de garder sa zone, sa dose d'humour en rentrant, et parfois avec un peu d'autodérision, parce que je vous dis franchement, d'enseigner avec une visière, avec un masque, franchement, on ressemble à des aliens. Hein. Donc, quelque part, de jouer là-dessus. Alors, la littérature, par exemple, elle est riche de plein d'éléments qu'on peut utiliser, notamment sur l'humour, ou bien des jeux aussi, ou même des registres de classe inversés, même si la distance doit être respectée. On peut travailler à distance et avec de l'humour pour pouvoir favoriser, en tout cas, un apprentissage le plus cool possible.
Ouais, donc toujours, vous l'avez dit, hein, le plaisir, en fait. C'est vraiment le mot qu'on doit retenir. Blaise, vous vouliez participer.
Oui, alors justement, moi je voulais rebondir déjà avant, mais sur le système de l'humour, puisque tu as nous informé qu'à partir de 16 ans, tu allais pour te déstresser avant la rentrée scolaire, partir camper un voire deux jours avec des amis. Alors je pense que tu devais avoir un cerveau limbique relativement important et puis d'avoir besoin de beaucoup de satisfaction au préalable, non?
Ben oui, c'était vraiment le fait qu'effectivement, moi je suis facilement insomniaque encore maintenant et effectivement je faisais des insomnies très tôt puisque j'avais peur de cette rentrée scolaire et moi, du coup j'arrivais à l'école crevé et je me disais tant qu'à arriver à l'école fatigué, autant que ce soit d'une manière ludique entre guillemets, et justement on avait ce système d'aller faire la fête avec les potes entre guillemets, hein, parce qu'on est quand même jeune, mais de vraiment se relaxer ensemble et puis tant qu'à s'endormir à minuit, ben on le faisait ensemble. Et puis voilà, c'est pas ce que je conseille de faire aux parents nécessairement, mais j'entends de trouver un moyen pour qu'effectivement la rentrée soit vécue de manière un peu moins stressante, quoi.
Tout à fait. Et puis ne pas oublier un autre élément quand même. L'école, c'est le travail. Donc il n'y a pas que le plaisir, hein. Je suis désolé de vous le rappeler. Mais il y a un élément important, c'est la deuxième voie métabolique que je veux aborder aujourd'hui. C'est une voie un peu compliquée qu'on appelle la voie MP1. Donc là, on agit sur des organites cellulaires, des neurones. Hein. C'est des petites batteries, on appelle ça les mitochondries. En fait, qu'est-ce qui fait la différence entre un virtuose et puis quelqu'un qui commence à apprendre, par exemple, le piano? Ben, il s'est entraîné. D'accord. Et les gens qui disent j'ai appris le piano en 3 jours, il y en a pas beaucoup. Donc il va falloir faire ses gammes, travailler, muscler ses doigts, s'approprier le clavier, donc géolocaliser en fait les différents éléments par rapport à nos sens. Et ça, cette façon de s'approprier un espace, c'est le travail dans le temps répété. Cette voie métabolique MP1, elle est nécessaire parce que lorsqu'elle est activée, elle enrichit ses batteries, elle augmente leur capacité et elle va coder de l'information dans la mémoire à long terme. Et quand on a du code d'information en mémoire à long terme, on développe ce qu'on appelle l'esprit d'abstraction. Donc c'est la différence entre un perroquet et un humain. C'est qu'il peut répéter des choses, mais forcément il ne va pas les enrichir. Moi, mon objectif, c'est de faire en sorte que cette régulation du rythme de travail, plus l'association du plaisir, elle soit constamment associée pour qu'elle produise le meilleur effet. Et grâce à ça, on peut booster véritablement la capacité. On appelle ça la plasticité. D'accord ? Et si cette plasticité, elle est encouragée, l'enfant, et c'est là le cercle vicieux, c'est que si l'enfant n'a pas de plaisir à faire un effort, ce rythme-là est perturbé, donc vous avez une voie d'apprentissage qui est bloquée et la deuxième qui ne fera pas parce qu'il sera découragé. Donc il faut d'abord garder cet équilibre, ce plaisir, pour que la deuxième voie soit activée, pour qu'elle booste le système. Si elle ne le fait pas, ça explique beaucoup d'échecs scolaires. Beaucoup de gens ont vécu ça, l'école, comme une expérience traumatisante. C'est pas forcément qu'ils n'étaient pas faits pour les études, c'est qu'on n'avait pas su, à quelque part, faire d'eux des gens heureux dans un système où on est là pour leur apprendre quelque chose. Moi, je sais pas, on va au restaurant puis on mange quelque chose de dégueulasse, c'est pas normal. Je veux dire, à quelque part, on va pour avoir du plaisir. Ouais. Donc moi, si je vais à l'école, bah, c'est pour avoir du plaisir. Et j'ai vraiment ça en tête en permanence pour les jeunes et les moins jeunes.
C'est intéressant parce que ça me fait penser à cette phrase que j'ai lue sur votre site internet de l'école Némésis. Un accompagnement personnalisé vers la réussite, d'accord, mais grâce à l'implication de la neuropédagogie, et c'est exactement tous les éléments que vous abordez maintenant. Blaise, vous vouliez...
Oui, alors je trouve ça fantastique, hein, comment vous expliquez ça. Et je me posais la question dans une classe de 20 ou 25 élèves, finalement, qui ont des méthodes d'apprentissage différentes, ou qui ont du plaisir dans différentes façons d'apprendre. Comment est-ce que, puisque finalement, le système scolaire aujourd'hui, il est assez unique, on a une méthode d'apprentissage qui est unique pour toutes les personnalités, finalement, comment vous gérez ça pour que chaque élève, finalement, trouve son plaisir individuellement?
Bon, ça fait un certain nombre d'années qu'on fait de la recherche, hein, dans le domaine des neurosciences, mais aussi du big data. Donc, on a utilisé des outils d'intelligence artificielle et puis on a pu développer, en fait, des outils au travers d'un test qui nous permet de définir comment vous apprenez, donc vos stratégies. Puis on a des profils cognitifs. Puis chacun de nous, en fait, apprend d'une manière très spécifique. Mais on a des catégories de gens qui apprennent plus ou moins de la même manière. Et ce qui est important, c'est de réunir ou de compléter ces groupes et de créer des interactions. Et comme si je sais, en fait, comment vous apprenez, je peux non seulement favoriser ce côté plaisir, mais en même temps vous donner de temps en temps un petit challenge pour que vous soyez obligé de vous dépasser. Parce que si je vous fais faire un marathon tout de suite, vous allez être dégoûté. Après 300 mètres, vous allez dire, mais franchement, non merci, c'est gentil. Par contre, si je vais utiliser une interaction de groupe en vous connaissant mieux, c'est pour ça qu'on va d'abord s'intéresser au travail de ce test, de savoir comment vous apprenez, quelles sont vos spécificités, quels sont vos besoins, eh bien à ce moment-là, je peux créer la meilleure harmonie possible. Et ça, c'est quand même, à mon avis, l'éducation du futur, hein. C'est l'augmentation en fait, de l'enseignant par des outils qui sont intéressants, mais de créer une synergie entre les groupes entre la machine qui va vous donner du e-learning, par exemple, aujourd'hui c'est un grand, tout le monde en parle, en fait, voilà, on oublie de dire que c'est quand même pas forcément un succès, mais d'un autre côté, l'interaction avec l'humain, elle peut vraiment avoir sa pertinence et elle doit être tout simplement à quelque part améliorée.
Alors, merci beaucoup, je suis navré, il nous reste à peine une petite minute. Marc, vous vouliez dire encore un petit mot ?
Peut-être un petit mot pour conclure, je sais. Je voulais revenir sur la notion de plaisir. Avant de commencer à écrire Le Dragon du Muvran, j'avais 40 ans quand j'ai commencé à écrire, j'aimais pas l'écriture. Et aujourd'hui, d'ailleurs je suis encore dans cette phase-là maintenant de finaliser mon prochain roman policier, je passe des heures sur une phrase, sur un mot, sur le rythme, sur le style. Et j'aime l'écriture, j'aime écrire, j'aime travailler sur le texte. Et en fait, le déclencheur a été pour moi le plaisir. Parce que c'était l'envie de raconter une histoire policière qui m'a fait comprendre que je devais utiliser un moyen pour m'exprimer qui est l'écriture. Et c'est vraiment le plaisir qui m'y a amené. Et comme petit exemple aussi, il y a une école à Payerne, ils vont renouveler l'expérience l'année prochaine. Ils ont proposé, il y a 2 ans, à leurs élèves, comme travail de Mathieu, d'écrire une nouvelle policière. Et c'était un travail absolument extraordinaire qu'ils ont fait. Je pense que j'aurais bien voulu être à leur place quand j'étais au collège à l'époque.
Ça, c'est une bonne idée, ça.
Parce que finalement, c'est pas une phrase d'un philosophe autour de laquelle on doit disserter, mais c'est un vrai travail créatif que ces élèves sont amenés à faire.
Excellent. Alors justement, en plus, aujourd'hui, c'est une journée spéciale, on va en parler dans un petit moment. Marc Voltanar, il faut vraiment que les gens restent avec nous parce que vous allez nous révéler quelque chose d'ici quelques minutes concernant votre prochain livre. Allez, dernière chose, on n'a vraiment plus qu'une petite minute, Jean-Jacques Martin de l'école Némésis, qu'est-ce que vous en pensez cette idée par exemple ?
Mais la mise en action, c'est la première chose qu'il faut faire quand on veut apprendre. Donc quand on vous enseigne la grammaire ou l'analyse logique, c'est rébarbatif quand on écrit quelque chose et qu'ensuite on vous explique pourquoi c'est faux et que ça passe pas le message, parce que ça donne pas l'impression voulue sur sur la personne, à ce moment-là vous apprenez 10 fois plus vite. Donc mettre en pratique ce qu'on apprend, c'est essentiel. C'est pour ça qu'on appelle ça un projet, en fait. Il faut vraiment, quelque part, on soit capable aussi de se projeter dans l'acte d'apprendre, puis de le matérialiser. Parce qu'on matérialise ce qu'on a dans notre cerveau, ça devient sur une feuille, c'est un transfert de matière. Et donc, à quelque part, là, vous voyez vraiment que vous avez créé quelque chose. Et ça fait plaisir.
C'est génial. Voilà. On sent qu'on pourrait parler encore des heures. On serait juste de vous retrouver prochainement, Jean-Jacques Martin de l'école Némésis. Vous restez avec nous, parce qu'après, c'est notre troisième expert du jour, Dominique Garonne, qui s'est beaucoup prononcé sur le sujet de la rentrée scolaire, qui sera avec nous. Ça va, Dominique ?
Ça va très bien, ouais. J'écoute.
Radio Chablais, entre vous et nous, la nouvelle émission pour vous conseiller. Merci à nos experts d'être là. Merci à Marc Voltenhammer aussi d'être avec nous. Une petite pause et on revient tous ensemble. À tout de suite.